Chapitre 3 Où le chirurgien fait sa seconde visite. Avant d'aller plus loin, ne voulant pas que le lecteur puisse être induit en erreur en imaginant que l'hôtesse était plus instruite qu'elle ne l'était réellement, ni qu'il soit surpris de ce qu'elle en savait tant, nous croyons nécessaire de lui faire part qu'elle avait appris du lieutenant que le nom de Sophie avait été l'occasion de la querelle. Et quant à la connaissance du reste, le lecteur pénétrant devinera aisément comment elle y était parvenue dans la scène précédente. Une extrême curiosité se trouvait jointe en elle à toutes ses autres vertus, et elle ne souffrait jamais volontairement que quelqu'un quittât sa maison avant de s'être informé autant qu'il était possible de son nom, de sa famille et de sa fortune. Elle ne fut pas plus tôt sortie que Jones, au lieu de réfléchir sur la manière dont elle l'avait quitté, se mit à réfléchir qu'il était dans le même lit où avait couché sa chère Sophie, ce qui lui fit naître mille idées plus tendres et plus passionnées que je ne saurais les exprimer, et sur lesquelles je m'appesantirais plus longtemps si je n'avais considéré que les amants de son espèce se trouveront en très petite minorité parmi mes lecteurs. C'est dans cette situation que le chirurgien le trouva quand il vint panser sa blessure. Le docteur, après lui avoir tâté le pouls, s'apercevant qu'il n'était pas réglé, et apprenant qu'il n'avait pas dormi, déclara qu'il était en grand danger. Il craignait, dit-il, que la fièvre ne survînt, ce qu'il voulut prévenir par une saignée. Mais Jones ne voulut point s'y soumettre, déclarant à son tour qu'il ne voulait plus perdre de sang. « Docteur, lui dit-il, si vous voulez seulement avoir la bonté de panser ma tête, je ne doute pas que je ne sois guéri dans un jour ou deux. » « Je voudrais, répondit le chirurgien, pouvoir assurer que vous serez guéri dans un mois ou deux. Fort bien, en vérité. Non, non, on ne guérit pas si facilement de pareilles contusions. Mais, monsieur, je ne suis point ici en ce moment pour recevoir des leçons d'un malade sur l'art que je professe. Et j'insiste pour que vous me laissiez donner un autre cours à vos humeurs avant que je vous panse. » Jones persista opiniâtrement dans son refus, et le docteur finit par céder, tout en lui disant qu'il ne répondait pas des funestes conséquences qui pourraient en résulter. « J'espère, ajouta-t-il, que vous me rendrez la justice de reconnaître que j'étais d'un avis contraire, ce que le malade promit. » Le docteur se retira dans la cuisine, où, s'adressant à l'hôtesse, il se plaignit amèrement de la désobéissance de son malade, qui ne voulait pas qu'on le saignât, quoiqu'il eût la fièvre. « C'est donc d'avoir trop mangé, dit l'hôtesse. » car il a dévoré ce matin à déjeuner deux fort grosses tartines de beurre. « Très probablement, dit le docteur. J'ai vu des gens manger dans la fièvre, et cela peut s'expliquer très aisément. Et voilà comme. L'acidité occasionnée par la matière fébrile peut stimuler les nerfs du diaphragme, et par ce moyen occasionner une sorte d'insatiabilité assez difficile à distinguer d'un appétit naturel. Mais la concrétion des aliments ne se fera pas, ils ne pourront pas s'assimiler aux chyles, et alors ils corroderont les orifices vasculaires et aggraveront ainsi les symptômes fébrifiques. D'où je conclus, sans la moindre difficulté, que le jeune gentilhomme est extrêmement mal, et s'il n'est pas saigné, je ne réponds pas de sa vie. « Il faut que chacun meure un peu plus tôt, un peu plus tard, répondit la bonne femme, et ce n'est pas mon affaire. » « J'espère au moins, docteur, que vous ne venez pas me proposer de le tenir pendant que vous le saignerez. Mais écoutez un mot à l'oreille. Je vous conseillerais, avant d'aller plus loin, de vous informer soigneusement de celui qui doit vous payer. »« Me payer ?» dit le docteur, en ouvrant de grands yeux. « Et quoi ? N'est-ce pas un gentilhomme que j'ai entre les mains ?»« Je l'ai cru aussi bien que vous, dit l'hôtesse. Mais comme mon premier mari avait coutume de dire... Tout n'est pas ce qu'il paraît être. Ce prétendu gentilhomme n'est rien autre chose qu'un va-nu-pied. Cependant, n'ayez pas l'air que je vous en ai parlé le moins du monde. Mais je crois que nous autres gens de métier devons toujours nous avertir l'un l'autre de ces sortes de choses. « Et j'ai souffert, s'écria le docteur en colère, qu'un faquin de cette espèce me donnât des leçons. J'entendrai insulter mon art par un homme qui ne me paiera pas. Je suis charmé d'avoir fait cette découverte à temps. Je verrai maintenant s'il veut être saigné, oui ou non. » En disant ces mots, il remonta l'escalier, et ouvrant la porte de la chambre avec une violence extrême, éveilla le pauvre Jones, qui était tombé dans le plus profond sommeil, et qui pisait, l'arracha aux délices d'un songe dont Sophie était l'objet. « Voulez-vous être saigné, oui ou non ? » s'écria le docteur furieux. « Je vous ai déjà dit quelle était ma résolution, » répondit Jones, « et j'aurais désiré de tout mon cœur que vous vous en fussiez souvenu, car vous m'avez arraché au plus doux sommeil que j'ai jamais goûté de ma vie. » « Ah ah ! » s'écria le docteur, « plus d'un homme a ainsi abrégé ses jours. Le sommeil n'est pas toujours sain, pas plus que le pain. Mais souvenez-vous que je vous le demande pour la dernière fois, voulez-vous être saigné ? » ?»« Et moi, » dit Jones, « je vous réponds pour la dernière fois que je ne le veux pas. » « Alors je me lave les mains de tout ce qui peut vous arriver, » s'écria le docteur, « et je vous prie de me payer les soins que je vous ai donnés jusqu'ici. » Deux voyages à 5 shillings chacun, deux pansements à 5 shillings et une demi-couronne pour la saigner. « J'espère, » dit Jones, « que vous n'avez pas le projet de me laisser dans cet état. C'est cependant, » dit l'autre, « sur quoi vous pouvez compter. » « Alors, » répliqua Jones, « votre conduite envers moi est celle d'un coquin. » Et je ne vous paierai pas un liard. Fort bien, s'écria le docteur, je ne perdrai que cela au moins. À quoi diable pensait donc l'hôtesse en m'envoyant chercher pour de pareils vagabonds? À ces mots, il sortit précipitamment de la chambre, et son malade, se retournant de l'autre côté, reprit bientôt le sommeil. Mais son songe était malheureusement évanoui. Chapitre 4. Dans lequel on voit paraître l'un des barbiers les plus plaisants dont l'histoire ait jamais fait mention, sans en excepter le barbier de Bagdad et celui de Don Quichotte. La pendule venait de sonner 5 heures quand Jones se réveilla, après un sommeil de 7 heures consécutives, si bien rafraîchi, avec une santé si parfaite et si vigoureuse, qu'il résolut de se lever et de s'habiller. Il ouvrit en conséquence son porte-manteau et en tira du linge blanc et un vêtement complet. Mais il passa d'abord une robe de chambre et descendit à la cuisine pour demander quelque chose qui pût apaiser certains tumultes qu'il sentait s'élever dans son estomac. Il rencontra l'hôtesse et, l'abordant avec beaucoup de politesse, il lui demanda ce qu'il pourrait avoir pour dîner. « Pour dîner, dit-elle, voilà une singulière heure pour penser à dîner. Il n'y a rien de près dans la maison et le feu est presque éteint. » « Fort bien, dit-il. « Mais il me faut absolument quelque chose à manger, n'importe quoi. Cela m'est presque indifférent. Car, à vous dire vrai, je n'ai jamais eu plus faim de ma vie. « Allons, dit-elle, je crois qu'il y a encore un morceau de viande froide avec des carottes qui sera bon pour vous. « Rien de mieux, répondit Jones, mais je vous serais obligé si vous vouliez les faire réchauffer. » L'hôtesse y consentit et lui dit en souriant qu'elle était charmée de le voir si bien rétabli. Car la douceur du caractère de notre héros était presque irrésistible, et d'ailleurs ce n'était pas dans le fond une méchante femme. Mais elle aimait l'argent si passionnément qu'elle haïssait tout ce qui avait l'apparence de la pauvreté. Jones remonta dans sa chambre pour s'habiller, tandis qu'on préparait son dîner, et fut presque aussitôt suivi du barbier qu'il avait envoyé chercher. Ce barbier, connu sous le nom du Petit Benjamin, était un garçon d'un caractère assez singulier et d'une humeur très joviale, qui lui avait souvent attiré, entre autres petits inconvénients, de bons soufflets, des coups de pied dans le derrière, des contusions, des fractures, etc. Car tout le monde n'entend pas la plaisanterie. Et ceux qui se la permettent sont souvent ceux qui s'offensent le plus d'en être l'objet. C'était cependant en lui un vice incurable, et quoiqu'il lui en eût assez souvent coûté cher, toutes les fois qu'une idée plaisante se présentait à son esprit, vous pouviez être sûr qu'il s'en soulageait incontinent, sans aucun égard pour les personnes, pour le temps et pour le lieu. Il avait d'ailleurs dans le caractère un grand nombre d'autres singularités dont je ne ferai pas mention, d'autant que le lecteur les apercevra lui-même très aisément en faisant plus ample connaissance avec ce personnage extraordinaire. Jones, impatient de finir sa toilette, pour une raison qu'on peut aisément deviner, s'ennuya de la lenteur que le barbier mettait à préparer son savon, et le pria de se hâter. À quoi l'autre répondit avec beaucoup de gravité, car jamais ses muscles ne se décomposaient en aucune occasion, « Festina lente, hâtez-vous lentement, est un proverbe que j'ai appris longtemps avant d'avoir touché un rasoir. » « Je vois, mon ami, que vous êtes un savant, » reprit Jones. Un pauvre savant, dit le barbier. Non omnia possumus omnes. On ne peut pas tout savoir. Encore, dit Jones. Il me paraît que vous possédez parfaitement le jeu qui consiste à réciter des vers à l'envi l'un de l'autre. Excusez-moi, monsieur, dit le barbier, non tanto me dignor honore. Je ne suis pas digne d'un si grand honneur. Alors, procédant à son opération, monsieur, dit-il, depuis que je professe mon art, je n'ai jamais pu découvrir que deux raisons pour se raser. L'une qu'on a de la barbe, et l'autre qu'on veut s'en débarrasser. Je conjecture, monsieur, qu'il n'y a pas bien longtemps que le premier de ces motifs vous a engagé à vous raser. Sur ma parole, vous avez bien réussi, car on peut dire de votre barbe qu'elle est tondenti gravior, plus épaisse sous la main du barbier. Je conjecture, dit Jones, que tu es un drôle de corps. Vous vous trompez étrangement, dit le barbier. Je suis trop adonné à l'étude de la philosophie. Inc ille lacrymae. De là viennent ses larmes. Monsieur, c'est là mon malheur. Trop de savoir a causé ma ruine. À la vérité, dit Jones, j'avoue, mon ami, que vous avez plus de savoir qu'on en rencontre généralement dans ceux de votre état. Mais je ne vois pas bien comment il a pu vous nuire. Hélas, monsieur, répondit le barbier, il est cause que mon père m'a déshérité. Il était maître à danser, et parce que je savais lire avant de savoir danser, il me prit en aversion, et partagea le peu qu'il avait de bien entre ses autres enfants. Voulez-vous que je vous rase les tempes? Oh, je vous demande pardon, je crois apercevoir qu'il y a hiatus in manuscriptis, lacune dans les manuscrits. J'avais ouï dire que vous alliez à la guerre, mais je vois que c'était une erreur. D'où concluez-vous cela? Dit Jones. Assurément, monsieur, répondit le barbier, vous êtes un homme trop sage pour y porter une tête cassée, car ce serait porter du charbon à Newcastle. Sur ma parole, s'écria Jones, tu es un bien singulier homme, et j'aime extrêmement ton humeur. Je serais charmé, en vérité, si tu veux revenir après mon dîner et boire un verre de vin avec moi. J'ai impatience de te connaître davantage. Oh, mon cher monsieur, dit le barbier, je peux vous faire un plaisir 20 fois plus grand, si vous voulez l'accepter. Quel est-il, mon ami? S'écria Jones. J'en boirai une bouteille avec vous, si vous voulez, car j'aime passionnément un bon naturel, et comme vous avez deviné que j'étais un drôle de corps, ou je ne me connais pas en physionomie, ou je devine, moi, que vous êtes un des meilleurs hommes du monde. La toilette de Jones étant terminée, il descendit. Le bel Adonis n'avait peut-être pas une plus charmante figure. Cependant, elle ne charma pas l'hôtesse, car cette bonne femme, qui ne ressemblait pas du tout à Vénus en fait de beauté, ne lui ressemblait pas davantage en fait de goût. Il eût été heureux pour la fille d'auberge, Nanny, de n'avoir vu Jones qu'avec les yeux de sa maîtresse, car cette pauvre fille tomba si éperdument amoureuse de lui en 5 minutes que sa passion lui coûta, dans la suite, bien des soupirs. Cette Nanny était extrêmement jolie et non moins modeste, car elle avait refusé un garçon marchand de vin et 1 ou 2 jeunes fermiers du voisinage. Mais le brillant éclat des yeux de notre héros fondit toute sa glace en un moment. Quand Jones rentra à la cuisine, la nappe n'était pas encore mise, et il n'y avait pas en effet de raison pour qu'elle le fût, son dîner étant resté in statu quo, ainsi que le feu qui devait servir à l'apprêter. Ce contretemps aurait pu mettre plus d'un philosophe en colère, mais il ne produisit pas cet effet sur Jones. Il fit seulement un léger reproche à l'hôtesse, en disant que, puisqu'il était si difficile de faire réchauffer le bœuf, il le mangerait froid. Mais la bonne femme, soit compassion, soit honte, soit tout autre motif, commença par gronder successivement ses domestiques pour avoir désobéi aux ordres qu'elle ne leur avait pas donnés. Et après avoir ordonné au garçon de mettre une nappe dans « le soleil », s'empressa de se mettre à l'ouvrage, et tout fut bientôt prêt. Le soleil dans lequel on conduisit Jones en avait réellement reçu le nom comme « Lucus a non lucendo », car c'était un appartement où le soleil n'avait presque jamais pénétré. C'était en effet la plus vilaine chambre de la maison, mais Jones s'en trouva fort heureux, car il avait trop faim en ce moment pour y trouver quelque chose à redire. Cependant, quand il eut satisfait son appétit, il ordonna au garçon de porter une bouteille de vin dans une meilleure chambre, et témoigna quelque mécontentement de ce qu'on l'avait fait dîner dans un cachot. Le garçon ayant suivi ses ordres, le barbier ne tarda pas à se rendre auprès de lui. Il ne se serait pas même fait attendre si longtemps s'il ne s'était amusé dans la cuisine à écouter l'hôtesse qui avait rassemblé un cercle autour d'elle pour lui conter l'histoire du pauvre Jones dont elle avait tiré une partie de lui-même et dont le reste, imaginé par elle, servait à prouver combien elle avait de génie pour la composition. Car, disait-elle, c'était un pauvre enfant de la paroisse, reçu dans la maison de M. Allworthy, où il avait été élevé pour entrer en apprentissage, et mis aujourd'hui à la porte pour ses méfaits, notamment pour avoir courtisé sa jeune maîtresse, et probablement pour avoir volé dans la maison. Car comment aurait-il pu autrement attraper le peu d'argent qu'il a? Et voilà celui que vous appelez un gentilhomme. Vraiment, oui. Un domestique de M. Allworthy, dit le barbier, quel est son nom? Il m'a dit que son nom était Jones, répondit l'hôtesse. Mais peut-être prend-il un faux nom. Ce n'est pas tout. Il m'a dit aussi que M. Allworthy l'avait élevé comme son propre fils, quoiqu'il soit maintenant fâché contre lui. Si son nom est Jones, il vous a dit la vérité, répliqua le barbier, car j'ai des parents qui demeurent dans le pays. Il y a même des gens qui prétendent qu'il est son fils. Pourquoi ne prend-il donc pas le nom de son père? Je ne peux vous en dire la raison, dit le barbier. Il y a bien des fils qui ne portent pas le nom de leur père. Vraiment, dit l'hôtesse, si je croyais qu'il fût le fils d'un gentilhomme, tout bâtard qu'il serait, je me conduirais tout différemment avec lui. Car beaucoup de ces bâtards deviennent des hommes puissants. Et comme mon pauvre premier mari avait coutume de dire, n'insultons jamais un chaland qui est gentilhomme. Chapitre 5. Dialogue entre M. Jones et le barbier. Cette conversation eut lieu en partie tandis que Jones était à dîner dans son cachot et en partie pendant qu'il attendait le barbier dans la salle. Dès qu'elle fut finie, M. Benjamin, comme nous l'avons dit, vint le trouver. Jones, après l'avoir très poliment prié de s'asseoir, remplit un verre de vin et but à sa santé en l'appelant « Doctissime Tonsorum ». « Ago tibi gracias, Domine, le plus savant des barbiers. »« Je vous en grâce, monsieur, » dit le barbier. Puis, regardant Jones fixement, il dit, avec beaucoup de gravité et une surprise marquée, comme s'il se fût rappelé des traits qu'il eût vus auparavant. « Monsieur, me ferez-vous la grâce de m'instruire si votre nom n'est pas Jones ?» Jones lui répondit que c'était en effet son nom. « Pro Deum atque hominum fidem. » Les dieux et les hommes s'y tromperaient. Dit le barbier. Qu'il se passe d'étranges choses dans le monde. Monsieur Jones, je suis votre très obéissant serviteur. Je vois que vous ne me reconnaissez pas, ce qui est peu surprenant en effet, puisque vous ne m'avez jamais vu qu'une fois, et vous étiez alors bien jeune. Dites-moi, je vous prie, monsieur, comment se porte le bon monsieur Allworthy? Comment va ille optimus omnium patronus, le meilleur, le plus bienfaisant des hommes? « Je vois, dit Jones, que vous me connaissez, en effet. Mais je n'ai pas, moi, le bonheur de vous reconnaître. »« Cela ne m'étonne pas, s'écria Benjamin. Mais ce qui m'étonne, c'est de ne pas vous avoir reconnu plus tôt, car vous n'êtes pas du tout changé. Je vous en prie, monsieur, puis-je, sans vous offenser, vous demander où vous allez par cette route ?»« Remplissez votre verre, monsieur le barbier, dit Jones, et plus de questions. »« Non, monsieur, répondit Benjamin. » Je ne voudrais pas être importun, et j'espère que vous ne me croyez pas d'une curiosité impertinente, car c'est un vice dont personne ne peut m'accuser. Mais je vous demande pardon, car quand un gentilhomme de votre sorte voyage sans ses gens, on peut le supposer, comme on dit, in casu incognito. Et je n'aurais peut-être pas dû prononcer votre nom. J'avoue, dit Jones, que je ne m'attendais pas à être si bien connu en ce pays que je me trouve l'être. Cependant, pour des raisons particulières, je vous serai obligé de ne prononcer mon nom devant aucune autre personne, jusqu'à ce que je sois parti. Pauca verba, peu de mots suffisent, répondit le barbier. Je désirerais bien qu'aucun autre que moi ne vous connût ici, car il y a des gens qui ont de la langue, mais je vous réponds que je sais garder un secret. Mes ennemis m'accorderont du moins cette vertu. Ce n'est pourtant pas celle qui caractérise votre profession, monsieur le barbier, répondit Jones. « Hélas, monsieur, répondit Benjamin, non si male nunc et olim sic erit. Si je suis mal maintenant, il n'en était pas de même autrefois. » Je n'étais pas né pour être barbier, je vous assure. J'avais d'ailleurs reçu une éducation trop distinguée pour cela. J'ai passé la plus grande partie de ma vie avec des gentilshommes, et quoi que ce soit moi qu'ils disent, j'ai quelque noblesse d'âme. Si vous m'aviez jugé digne de votre confidence, comme vous en avez jugé quelques autres, je vous aurais prouvé que je savais garder un secret plus fidèlement qu'eux. Je n'aurais pas dégradé votre nom dans une cuisine d'auberge. Car, outre que je les ai entendus publier tout haut ce que vous leur aviez dit de votre différend avec M. Allworthy, ils ajoutaient encore à leur récit des choses de leur invention, des choses que je savais être des mensonges. « Vous me surprenez beaucoup, » s'écria Jones. « Sur ma parole, monsieur, » répondit Benjamin, « je vous dis la vérité, et je n'ai pas besoin d'ajouter que c'était l'hôtesse. » C'est cela, je vous assure, qui m'a engagé à écouter l'histoire, et j'espère qu'elle est entièrement fausse, car j'ai un grand respect pour vous, et il n'a jamais cessé, je vous assure, depuis le jour où la bonté de votre cœur s'est montrée si noblement en faveur de Black George. Chacun en parlait dans le pays, et j'ai reçu plus d'une lettre à ce sujet. Vous pouvez être sûr que cela vous a fait aimer de tout le monde. Vous me pardonnerez donc si l'inquiétude que m'a donnée ce que j'ai entendu m'a poussé à vous faire tant de questions, car, je vous le répète, on ne peut m'accuser d'une impertinente curiosité. Mais j'aime passionnément un bon naturel, et de là vient Amoris abundantia ergate, mon extrême attachement pour vous. Le moindre témoignage d'amitié gagne aisément la confiance d'un malheureux. Il ne faut donc pas s'étonner si Jones, qui, outre qu'il était malheureux, avait le cœur extrêmement sensible, crut facilement toutes les protestations de Benjamin et en fit son ami. Les bribes de latin qu'il appliquait quelquefois assez à propos, quoiqu'elles ne prouvassent pas une profonde littérature, semblaient cependant indiquer quelque chose de supérieur à un barbier ordinaire, et il faut convenir que toute sa conduite y répondait. Jones crut donc qu'il était instruit de sa naissance et de son éducation, et enfin, après s'être fait beaucoup presser, il lui dit « Puisque vous avez, mon ami, tant entendu parler de mes affaires et semblez désirer si vivement de les connaître à fond, si vous voulez avoir la patience de m'écouter, je vous instruirai de tout. » « La patience ? » s'écria Benjamin. « Oh, certes, j'en aurai. Je ne trouverai jamais votre récit assez long, et je vous suis infiniment obligé de l'honneur que vous voulez bien me faire. » Jones commença alors et raconta toute son histoire, passant seulement sous silence une ou deux circonstances, notamment tout ce qui eut lieu le jour de son combat avec Thwackum, et termina son récit par la résolution où il avait été de s'embarquer, jusqu'au moment où la rébellion qui venait de s'élever dans le nord lui avait fait changer de dessein et l'avait amené dans le lieu où il se trouvait en ce moment. Le petit Benjamin avait écouté avec la plus grande attention, sans interrompre une seule fois. Mais quand le récit fut terminé, il ne put s'empêcher d'observer que ses ennemis avaient sûrement inventé quelque chose de plus contre lui, et l'en avaient accusé auprès de M. Allworthy. Qu'autrement, un homme si bon n'aurait jamais chassé de cette manière celui qu'il avait si tendrement aimé. Jones répondit à cette observation qu'il ne doutait pas que l'on eût en effet employé d'infâmes artifices pour le perdre. Il aurait été presque impossible que tout le monde ne fît pas la même remarque que le barbier, à qui Jones, en effet, n'avait rapporté aucun des motifs d'après lesquels il avait été condamné, car ses actions n'étaient plus alors placées dans ce jour défavorable sous lequel elles avaient été malignement présentées à M. Allworthy. Il ne pouvait pas non plus l'informer des fausses accusations qui avaient été de temps en temps portées contre lui à M. Allworthy, car il n'en connaissait lui-même aucune. Il avait en outre, comme nous l'avons déjà observé, omis quelques faits importants dans le récit qu'il venait de faire. En un mot, tout paraissait alors tellement en faveur de Jones que la méchanceté même n'aurait pas trouvé facile de jeter le moindre blâme sur lui. Non que Jones désirât cacher ou déguiser la vérité. Il aurait, au contraire, souffert moins volontiers qu'il rejaillît quelque blâme sur M. Allworthy pour l'avoir puni que sur lui-même pour l'avoir mérité. Cependant, la chose fut et sera toujours ainsi, car, quelque honnête qu'un homme puisse être, le compte qu'il rendra de sa propre conduite lui sera, en dépit de lui-même, si favorable que ses vices se purifieront en passant par ses lèvres, et comme ces liqueurs troubles que l'on clarifie avec soin, laisseront leur lit au fond du vase qui les contenait. car de quelque manière que les faits puissent paraître en eux-mêmes, les motifs, les circonstances, les conséquences diffèrent tellement quand un homme raconte sa propre histoire ou quand elle est racontée par son ennemi qu'il est presque impossible d'y reconnaître les mêmes faits. Quoique le barbier eût dévoré le récit de Jones avec la plus grande habileté, il n'était pas encore satisfait. Il était resté en arrière une circonstance que sa curiosité, toute froide qu'elle était, désirait ardemment de connaître. Jones avait bien parlé de son amour et de la rivalité de Blifil, mais il avait soigneusement caché le nom de la jeune personne. Le barbier, donc, après avoir un peu hésité et toussé plusieurs fois, finit par lui demander humblement la permission de s'informer du nom de la personne qui paraissait être la principale cause de tous ses malheurs. Jones, après un moment de silence, lui dit « Puisque ma confiance en vous a déjà été si loin, et puisque son nom, je le crains bien, est déjà devenu trop public en cette occasion, je ne vous cacherai pas, elle s'appelle Sophie Weston. Pro deum atque hominum fidem. Monsieur Weston a une fille aussi grande que vous le dites ?»« Oui, s'écria Jones, et si parfaite qu'aucune autre dans le monde ne saurait lui être comparée. Jamais l'œil ne vit rien d'aussi beau, et c'est là encore sa moindre perfection. Tant d'esprit, tant de bonté. Oh, je pourrais passer ma vie entière à la louer, et je mettrais encore la moitié de ses perfections. » « Monsieur Weston a une fille si grande !» s'écria le barbier. « Je me souviens d'avoir vu le père enfant. Voilà ce que c'est, tempus edax rerum, le temps rongeur des choses. » Le vin se trouvant fini, le barbier insista très fort pour faire venir une seconde bouteille à ses frais. Mais Jones refusa absolument, en disant qu'il avait déjà bu plus que de coutume, et qu'il préférait se retirer sur le champ dans sa chambre, où il désirait bien se procurer un livre. « Un livre ! » s'écria Benjamin. « Quel livre voulez-vous ? Latin ou anglais ? J'ai quelques livres curieux dans les deux langues, tels que Erasmi Colloquia, Ovid de Tristibus, Gradus ad Parnassum. Et en anglais, j'ai quelques-uns des meilleurs livres, quoiqu'un peu dépareillés. Mais j'ai la plus grande partie de la chronique de Slough, le sixième volume de l'Homère de Pope, le troisième du Spectateur, le second de l'histoire romaine d'Echard, l'Artisan, Robinson Crusoe, Thomas à Kempis, et deux volumes des œuvres de Tom Brown. « Je n'ai jamais lu ces derniers, dit Jones. Je vous prie donc de m'en prêter un volume. » Le barbier l'assura qu'il l'intéresserait beaucoup, car il regardait cet auteur comme ayant été l'un des plus grands génies que la nation eût jamais produit. Il alla donc à sa maison, qui était presque à côté, et revint sur le champ. Après que Jones eut fortement enjoint au barbier de garder le plus profond secret, ils se séparèrent. Le barbier retourna chez lui, et Jones rentra dans sa chambre.